La semaine dernière, sur le campus de Rennes 2, l'asso étudiante R2Com a organisé 3 ateliers pour apprendre aux étudiants à bien utiliser les réseaux sociaux dans le monde professionnel. Donc un atelier sur Facebook, sur LinkedIn et puis le troisième sur Twitter. Ça a été l'occasion pour nous de faire la connaissance de l'asso R2Com, de s'interroger sur la pratique d'une étudiante, Marisol, qui est aussi la coprésidente de l'asso, mais aussi sur la vision des réseaux sociaux du côté de l'entreprise avec François Galliana, président de la société Egg France à Béton. On écoute ses rencontres.
Donc, je m'appelle Marisol Chatou, je suis coprésidente de l'association R2Com, une association qui met en relation des professionnels de la com avec les étudiants de com. On touche les étudiants de Rennes 2 majoritairement, mais on va aussi toucher d'autres filières et d'autres écoles. Et je suis rentrée en licence de com dès mon bac et là je suis en troisième année.
François Galliana, je suis président de la société Egg France, qui est un studio créatif basé à Béton, où on fait de la réalisation de vidéos et de contenus publicitaires.
R2Com, à la base, sur le principe, c'est une association, donc on n'est que des bénévoles, on a un bureau, président, trésorier, secrétaire, etc. Mais c'est une association qui est constituée d'un réseau, en fait, où on va avoir des contacts, on va avoir des gens qu'on connaît, qu'on va inviter sur des événements, et en fait, on va se créer un réseau en interne, surtout, ce qui fait que toutes les personnes qui sont membres de l'association vont pouvoir rencontrer ces communicants, leur proposer par exemple une offre de stage, discuter avec eux de leur parcours, et on peut les inviter du coup sur des événements pour les faire parler de ce qu'ils font et qu'ils nous présentent leur parcours, leurs compétences et pour partager tout ça avec d'autres étudiants. On n'essaye pas du tout de se cantonner à Infocom, mais vu ce qu'on fait, ça vise surtout Infocom. Après, on avait par exemple sur les ateliers réseaux sociaux qu'on fait cette semaine, mardi on avait des étudiants de Digital Campus qui étaient là. On avait des professionnels du CBC 35, le Club Bretagne Communication, qui étaient là aussi, qui est un de nos partenaires d'ailleurs. Et on va parfois avoir des étudiants d'autres filières. On a quelqu'un qui est en psycho qui vient quelques fois depuis 2 ans.
Après, la communication, elle est un peu là partout. Donc finalement, les autres étudiants, ils sont aussi impliqués là-dedans.
Oui, y a de la com partout, ça c'est sûr. Mais en même temps, les interventions que les professionnels font, les sujets qu'on aborde, c'est des sujets qui sont vraiment en lien avec la licence communication en elle-même. C'est par exemple du nudge, c'est de la persuasion douce, ça va être l'UX, l'user experiment, comment rendre un site web attrayant, utile, facile, intuitif. Ça va être sur le métier de consultant, ça va être sur la veille informationnelle. C'est des sujets de communication, mais vraiment axés infocom, métier communicant. On a des événements, donc on va avoir des semaines d'ateliers, on va faire venir quelqu'un, des petits effectifs, on va vraiment faire de l'interaction, de l'apprentissage, des conférences en amphithéâtre, on va faire venir quelqu'un ou plusieurs personnes, ils vont nous parler de leur projet ou ils vont répondre à la thématique qu'on a mis en place. On va avoir des tables rondes, c'est pareil, c'est des petits effectifs, ça va plutôt être de la discussion, rencontrer un professionnel avec une dizaine d'étudiants et vraiment parler de ce qu'il fait. On va pouvoir permettre aux personnes qui sont membres de l'association d'avoir des after-work. Ça va être des rencontres avec des professionnels en dehors de l'université. Bon, par exemple, ça va être un apéro, les tweets apéro, tout simplement. C'est à 18h, 19h, le soir, après le travail. On y va à 2-3 et on rencontre des gens qui sont... C'est leur métier et ça permet vraiment de mettre un pied dedans et voir un peu à quoi ça correspond. Et après, sur les réseaux sociaux, on va avoir de la veille, surtout sur Twitter. Donc la veille, c'est tout bête, en fait. Ça va être de suivre des personnes qui font des choses qui nous paraissent pertinentes, intéressantes, et de faire le tri dans ce qui apparaît dans notre actualité et de repartager des choses qui nous paraissent vraiment pertinentes pour nos followers à nous.
Pourquoi est-ce que tu as décidé, toi, de t'investir dans cet asso en particulier ?
J'avais une amie qui était dans l'asso. En fait, l'an dernier, on en discutait, on en parlait tout le temps, elle était vachement impliquée. Et je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de tenter le truc et d'apprendre à faire des choses, plein de choses. Et ça m'apporte énormément. J'ai fait beaucoup d'associatifs avant. Je faisais du bénévolat sur les Coxigrues, qui est une association qui proposait des spectacles pour enfants. J'en ai fait à la Rennes Théâtre, j'en ai fait pour des concours de nouvelles à Rennes 2. J'en ai fait un petit peu partout. Enfin, j'ai un peu gravité. Et c'est vrai que du coup, l'an dernier, surtout en L1, je faisais plein de choses un peu partout, dans tous les sens. Et là, cette année, j'ai un peu stabilisé. Je suis vraiment quasiment que sur R2Com. Et du coup, j'avais déjà une première idée de ce que c'était une association. Et du côté, même si c'est associatif, un petit peu hiérarchique, de dire la personne qui est en haut, elle va prendre les décisions en disant tu fais ça, faut gérer des équipes de bénévoles, faut gérer des événements. Là, actuellement, je suis en stage dans une association. J'aime beaucoup l'associatif, il y a un côté très familial que j'apprécie. Mais en même temps, j'ai jamais mis les pieds encore en entreprise, vraiment. J'ai pas fait de stage de 4 mois, par exemple, au service com de Carrefour ou un truc du genre. Du coup, j'ai jamais pu me faire une vraie idée de ce que ça représente une entreprise. Je pense que j'ai envie d'essayer quand même. Après, on verra. Et la finalité, ce serait à la suite des études, soit chargée de com, j'apprécierais beaucoup, soit community manager, parce que j'aime beaucoup les réseaux sociaux. La preuve, c'est moi qui fais les ateliers, donc À voir, je suis pas encore située, je vais sûrement partir sur un master, peut-être pas Rennes 2 parce que c'est très master recherche, mais on verra.
Pour toi, c'est quoi, ça représente quoi la communication ?
Je vais donner la définition qui me vient un peu, que j'ai donnée ce matin dans ma copie. C'est, pour moi, la communication, c'est des relations qui sont conscientes et inconscientes avec les gens, en fait. Enfin, je me souviendrai toujours de l'exemple, un ado qui claque la porte de sa chambre en disant « je veux plus te parler », bah, c'est communiquer, en fait, ça veut dire énormément de choses, l'ado qui claque la porte. Donc la communication, ça va être toutes les interactions entre les gens. Après, de manière un petit peu plus commune, on peut dire que la communication, c'est le fait de partager un projet, de partager quelque chose, en fait, de faire de la communication sur un événement, sur un produit, de communiquer avec quelqu'un sur c'est vraiment de communiquer sur quelque chose, en fait. Moi, je le vois plutôt comme ça. Après, c'est très vague et c'est vrai que ça va dépendre aussi un petit peu du contexte, mais communication, ouais, c'est des interactions entre les gens, les personnes, les objets.
Et c'est ça qui t'intéresse, toi ? Pourquoi est-ce que tu veux travailler dans la communication, justement ?
J'aime bien parler. J'aime beaucoup parler, en fait. J'aime beaucoup partager des choses. Et il n'y a pas vraiment d'autre solution que partager quelque chose qui nous tient à cœur qu'en communiquant, en fait. C'est pour ça que je trouve la com très intéressante, les métiers de communication, parce qu'on peut partir un petit peu n'importe où. On peut partir dans la médecine, on peut partir dans le droit, on peut partir dans l'université, on peut partir dans le monde du spectacle. On peut faire un petit peu ce qu'on a envie, en fait, mais toujours en gardant ce côté très communication, lien avec les autres.
Malheureusement, des fois, les communicants sont assez mal vus. Je pense que tu es assez bien placé aussi pour le savoir.
Bah moi, je reste beaucoup sur l'exemple du community manager où, de toute façon, c'est pas du taf, tu es sur Facebook. Pour faire un petit peu de community management dans mon stage et pour l'asso, il y a des fois, faut s'amuser quand même parce qu'il y a des problèmes. Et moi, la première, je me sers de Twitter pour faire mes doléances avec les community managers de Carrefour, de Sushi Shop, de Innocent, un petit peu tout ce qu'on veut, j'aime beaucoup. Je pense que ça les saoule un peu parfois, mais c'est leur taf. Enfin, c'est leur taf dans un sens. Donc je pense qu'un CM, on dirait pas, mais c'est un taf assez lourd. Enfin, surtout que le CM, il a pas de... Le CM, il peut pas faire 9h-17h, en fait, j'ai l'impression. Ça me surprend toujours quand je tweet un CM à 22h un dimanche, et que des fois, j'ai des réponses. Ou même parfois à 18h le soir, 20h, même parfois j'ai des réponses en pleine nuit. Enfin, le CM, il est noctambule ou je ne sais quoi. Après, pour le coup, je pense que faut vraiment aimer ça. Enfin, le CM d'Innocent, enfin, Innocent, c'est des smoothies. Il faut aller regarder ce qu'ils font. Innocent et Interflora. Je déconne pas, Interflora aussi, c'est des très bons CM, c'est des mecs qui sont très drôles. Enfin, Interflora, moi je sais qu'Interflora, ils font parfois des trucs avec Innocent, ils se poquent les uns les autres, ils font des petits trucs entre eux. Enfin, je sais qu'en ce moment, ils font une hot cadeau avec il y a plein de CM qui sont tous regroupés, ils sont tous en train de dire nous on offre ça, mais il y a un truc, ça vaut peut-être 10 000 euros de cadeau, je pense, au final dedans. Enfin bref, c'est vraiment, ça va un peu. Mais il y a une communauté un petit peu CM, moi je trouve que j'aime beaucoup. Après, je pense que le métier de communicant en général, c'est un petit peu c'est compliqué en fait, parce que c'est des métiers qui sont un petit peu nouveaux. Et du coup, on n'a pas encore totalement peut-être défini ce que c'était et quel intérêt ça avait. Un médecin, je pense que ça va, on a admis ce que c'était. Un avocat aussi, c'est des professions qui sont très concrètes. Un communicant, on s'en passerait en fait. Je le pense. Hein. Un communicant, ce n'est pas quelque chose qui est essentiel à une vie d'entreprise. C'est quelque chose qui fait du bien, qui est utile, qui permet d'aller plus loin dans la recherche, par exemple, de partenaires, de faire des meilleures communications, d'atteindre un meilleur public. Mais ce n'est pas essentiel, un communicant. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a toujours ce petit état d'esprit de dire « mais est-ce que ça vaut le coup d'embaucher un mec pour faire de la com ? Est-ce qu'il va nous rapporter suffisamment en bénéfices pour qu'on puisse le payer ?» C'est compliqué.
Et la communication dans le monde pro via les réseaux sociaux, c'est le thème du coup des ateliers que vous avez mis en place. Savoir bien utiliser les réseaux sociaux de manière pro, c'est évidemment important pour les gens qui travaillent dans la com, mais est-ce que c'est indispensable aussi pour tous les autres finalement ?
Aujourd'hui, c'est le moyen principal de communication pour un bon 90% des entreprises. La com papier est très datée, la com TV est très chère. Aujourd'hui, Internet, c'est gratuit et c'est accessible, donc très importante.
Il y a deux aspects aux réseaux sociaux dans le monde pro. Il y a l'aspect public et il y a l'aspect public perso et l'aspect professionnel. Par exemple, avoir un Twitter personnel, on ne peut pas mettre ce qu'on veut dessus, même si on n'est pas communicant, parce que pour peu que notre Twitter soit notre vrai nom, on tape notre nom dans Google, on tombe sur Twitter, on tombe sur « putain, mon patron, c'est un vrai connard cette semaine », ça l'a fait un peu mal. Et pourtant, on n'est pas communicant. Donc, il y a l'aspect qui est personnel, mais qui reste public, parce qu'on est sur des réseaux sociaux, c'est des choses qui sont très publiques, c'est des réseaux. Et après, il y a l'aspect professionnel, où en effet, là, il est plutôt réservé aux personnes qui vont être des communicants, et notamment des community managers, des personnes qui font de la veille, qui sont vraiment en lien avec les réseaux sociaux. C'est pareil sur Facebook, un profil personnel, aujourd'hui, si on n'en a pas, c'est suspect. C'est suspect de ne pas avoir de profil Facebook sur un entretien d'embauche. De même qu'un profil LinkedIn, peu importe le métier qu'on veut faire, il y a des chances qu'on en ait besoin. C'est même j'ai mes amis qui sont développeurs web, ils ont des profils LinkedIn, ils doivent les tenir à jour. Et ils les tiennent à jour parce que c'est des offres d'emploi qui peuvent arriver, c'est des propositions. Et même si on n'est pas en lien avec les réseaux sociaux, l'image est très importante, c'est ce qu'on peut appeler la e-réputation. Il faut être super vigilant. Enfin, moi, je peux prendre même sur des étudiants en com. Hein. Suffit de taper de regarder un peu ce qu'il y a sur leur Twitter, sur leur Facebook. C'est assez incroyable parfois. En L3, un petit peu moins, parce que c'est des choses où on commence à être sensibilisé. Mais j'ai déjà vu des étudiants qui se couvraient de l'anonymat de Facebook en utilisant des faux comptes et qui ont été très violents avec d'autres étudiants. Parce que c'est Facebook, c'est anonyme, et ouais, mais le jour où on retrouve que c'est toi, tu te rends compte un peu de ce que ça peut faire. Il y a une irréputation à faire attention. Après, c'est vrai que si on n'est pas du tout sur les réseaux sociaux et qu'on fait un métier qui ne nécessite pas d'être sur les réseaux sociaux, on n'en a pas besoin. Mais on est dans une génération où l'Internet est quasiment omniprésent, ce qui fait qu'on a besoin. Il faut être présent, sinon c'est suspect.
Et c'est quoi ta pratique à toi sur les réseaux sociaux ?
Beaucoup de chats. Beaucoup de chatons, j'ai deux chatons qui sont très adorables, mais sur Facebook je mets quasiment rien, parce que Facebook me gonfle sincèrement, je m'en sers pour communiquer sur les cartes de com notamment, mais personnellement il me sert à rien, parce que je trouve que c'est de l'étalement de vie personnelle, mais quand je vois un petit peu par exemple les gens dans mes amis qui postent des photos, je parlais de mes chats, mais mes chats je les mets sur Snapchat, donc c'est vrai que c'est pas pareil, mais des gens qui mettent des photos tous les jours de leurs chiens, qui mettent des photos de leurs enfants, qui mettent des trucs, j'ai mangé ça, j'ai fait machin, quand on avait 14 ans je veux bien, des gens qui ont 30 ans ça me choque un petit peu plus et ça me fait m'interroger un petit peu. Après LinkedIn j'en ai un usage très professionnel, enfin CV, expérience, et Twitter, je vais avoir un usage qui est un peu mitigé, je vais être un petit peu sur du perso, par exemple je vais avoir mis que je suis allée au ciné hier soir, que j'ai fini tard et que j'avais un partiel ce matin, mais c'est pas des choses qui sont choquantes en fait, si on peut dire, c'est pas des photos en soirée, c'est pas putain je me suis défoncé la gueule hier soir, le joint il était génial, enfin c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Après mon Twitter il me sert donc un petit peu au perso et un petit peu au professionnel, mais moi j'ai une position sur Twitter qui est vraiment choisie, c'est de volontairement mettre du perso pour faire savoir que j'ai comme une vie et que j'ai pas de vie à cacher et que je suis en accord un petit peu avec ce que je mets. Ma biographie va avoir marqué que je suis étudiante, mais que je fais aussi de la musique, que le sport que je fais, des petites choses que j'apprécie en fait. J'essaye vraiment d'allier un petit peu perso-pro, enfin perso et... le perso et l'état d'esprit pro un petit peu, la mise en avant de pro que je fais. Parce que justement, je pense qu'il faut mettre un petit peu de perso en avant pour dire « Regarde, je fais autre chose que mon travail, je sais faire d'autres choses. » Et c'est un plus, en fait. Les centres d'intérêt, c'est quelque chose... c'est à double tranchant, un centre d'intérêt, par contre. Mais je pense que je pense que c'est important.
Facebook, pourquoi j'ai proposé d'en parler, c'est que nous, c'est un des principaux vecteurs par lesquels on communique. LinkedIn étant beaucoup plus orienté professionnel, B2B, des choses comme ça. Et Twitter est très spécifique pour moi à un certain monde, donc pas adapté à moi, à mon activité du moins. Donc Facebook, moi, c'est aujourd'hui 90% de ma com avec Instagram.
En matière de communication, quel est l'atout particulier de Facebook, par exemple ?
Possibilité de toucher une personne en l'indiquant pratiquement sa rue. Un public extrêmement ciblé, c'est tellement impressionnant que ça en fait peur.
Dans l'imaginaire collectif, on pense surtout que c'est les plus jeunes qui maîtrisent ces réseaux, parce que pour la plupart, ils sont nés avec. Ça a bien changé pourtant.
C'est vrai et pas vrai, dans le sens où aujourd'hui, Facebook, quoi, plus de 10 ans, donc aujourd'hui, les générations plus anciennes, même les 40, 50 ans, arrivent à l'utiliser. Quand on s'y met, on apprend. Hein. Après, des choses comme Snapchat, Musical.ly, des choses comme ça, où c'est quand même des réseaux vachement de niche, où ça touche les très jeunes. Il y a des gens qui le connaissent, c'est sûr, mais après, il faut souvent apprendre les codes des jeunes pour pouvoir s'adapter, ce qui est parfois plus difficile.
Et tu dis justement, quand on s'y met, on apprend, parce que pourtant, il y a quand même des formations, c'est carrément un métier, être community manager. Pourtant, en fait, c'est un côté assez intuitif, on peut apprendre seul.
Moi, je suis un fervent croyant de tout ce qu'on va apprendre tout seul, c'est-à-dire d'aller sur la plateforme et de tester. Voilà, les apps sont gratuites, autant tester et voir ce que ça donne. Après, il y a des cas où, quand on est community manager d'une très grosse société, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc les formations peuvent être intéressantes, il y a sûrement des choses très intéressantes à apprendre. Après, moi, je prendrai la pratique.
Pourquoi dans les ateliers que vous proposez cette semaine, il n'y a pas Instagram justement, parce que c'est hyper utilisé surtout par les entreprises de création de bijoux, de vêtements, enfin tout ce qui est très visuel. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas dédié... un atelier aussi à Instagram.
Instagram, il y a un usage qui est très différent. Enfin, Facebook, on va avoir des photos, publications, vidéos, gifs, on va événements. Twitter, on a les tweets, les événements, les sondages, les vidéos, les gifs, toujours. Instagram, on est vraiment sur de la photo, un petit peu de vidéo. Et du coup, c'est pas du tout pareil. Il faut, enfin, dans la communication, c'est compliqué d'utiliser Instagram parce que ça veut dire faire uniquement de la photo. Mais il y a par exemple des champs de métier. On va reprendre l'exemple d'Innocent que j'apprécie. Innocent, c'est compliqué de faire par exemple un Instagram. Je sais pas s'ils en ont un. Ils en ont peut-être un. Peut-être qu'ils s'en sortent très bien. Mais de mon point de vue, Innocent, c'est des smoothies, c'est des bouteilles. Ils peuvent peut-être mettre une photo toutes les semaines, toutes les deux semaines, mettre une photo par jour, plusieurs photos par jour, de manière à être suffisamment visible dans les stories, dans les fils des gens. Parce que Instagram fait quand même du tri, c'est plus par ordre chronologique maintenant. Donc il faut réussir à en mettre et que ce soit pertinent. Donc c'est compliqué. C'est pas un usage qui est trop fréquent.
Moi, je trouve que Instagram est très intéressant, mais très difficile à adopter pour l'instant, notamment au niveau des entreprises, parce qu'il faut beaucoup de visuels, il faut publier d'une certaine manière et ça, donc c'est très compliqué. Après, il y a des marques qui s'y prêtent très bien, hein, des marques Yves Rocher, tout ce qui est très visuel marche très bien. Après, des marques comme EDF, faut avoir une certaine adaptabilité. Tout n'est pas utilisable. Certaines entreprises ont plus adopté Twitter, d'autres LinkedIn, parce qu'ils ont une cible client. En fait, il faut identifier principalement la cible client et à partir de ça, déterminer où ils sont. Et quand on sait où ils sont, il faut utiliser ces médias. Donc certains vont utiliser Instagram parce qu'ils font de l'image, donc c'est Instagram, et ils ne vont pas avoir l'usage de Twitter. Ce qui est mon cas, nous on fait de l'image, Twitter on ne l'utilise pas parce que ça ne nous sert à rien. Instagram, Facebook, on est dessus. Voilà. LinkedIn, on commence parce qu'on a une stratégie vers du B2B, et on sait que les directeurs com sont là-bas. Donc voilà, c'est ça. Mais il faut effectivement faire un tri. Après, sauf qu'on est une très grosse société et qu'on peut se permettre d'avoir 3 ou 4 community managers, mais ça, c'est un autre point. Ça.
Souvent, dans l'ordre des réseaux sociaux utilisés dans les entreprises ou par les associations, on va avoir Facebook, Twitter, et après Instagram, et ensuite Snapchat, je pense. Facebook, c'est vraiment le gros, et parfois, ils se mettent à Twitter, mais rarement Instagram. Sauf si, par exemple, ça va être des entreprises qui font, par exemple, des créateurs de bijoux. Là, oui, c'est pertinent, c'est de la photo.
Tu parles de Snapchat, c'est aussi utilisé par les entreprises Snapchat en communication ?
Alors ils y sont mis depuis pas très longtemps, je saurais pas dire quand parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie pour le coup, c'est les Discover Snapchat si je dis pas de bêtises, mais c'est utilisé par plein de monde, c'est Le Monde, Le Figaro, L'Équipe, c'est vachement utilisé. Et c'est des petites stories, je pense, de peut-être 15-30 secondes sur un sujet d'actualité avec quelques photos, du texte, éventuellement de la musique. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose, il faut viser le bon public, en fait. C'est qu'aujourd'hui, Snapchat, ça commence à devenir le réseau des jeunes de 10 à 13 ans, à peu près. Là où c'était allé, où à notre génération, où on a 20-25 ans, c'était plutôt Facebook. C'est compliqué de viser sur Snapchat les bonnes personnes. Et puis même Snapchat, moi je considère qu'il y a un côté très personnel. Enfin, regarder des Discover Snapchat, je pense que ça marche, sinon ils n'en feraient pas. Mais sur un côté pratique, faire un Discover Snapchat, ça coûte du temps en fait. Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie. Il faut avoir les bonnes idées, il faut avoir quelqu'un qui sait le faire. Et après, il faut avoir un bon retour dessus. Parce que si on fait des trucs sur Snapchat, mais qu'on a un public qui n'est pas du tout sur Snapchat, c'est une perte de temps. Donc là où à peu près tout le monde est sur Facebook. Twitter, faut le considérer comme un réseau avec énormément d'outils. Ça paraît très simple à première vue, ça s'est un petit peu complexifié avec les années bien sûr, mais ça reste quelque chose de relativement simple, mais ça reste quelque chose de public. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en considération, c'est public Twitter, rendez-vous en compte. Tout ce que vous mettez sur Twitter, ça peut ressortir, même si vous avez 45 000 tweets, j'en suis l'exemple. Mon premier tweet, on peut le retrouver si on a le bon mot-clé. Donc c'est pas caché, c'est quelque chose que je vais le montrer ce soir, enfin avec des recherches par mots-clés. Mais Twitter, ça va être, faut faire très attention à la visibilité qu'on a dessus. Et faut aussi faire, enfin c'est aussi un très bon outil parce qu'on peut faire plein de choses avec. Il y a l'automation qui peut être possible, il y a TweetDeck. TweetDeck, c'est un réseau en fait qui a été racheté par Twitter, qui permet de gérer plusieurs comptes Twitter à la fois, qui permet d'avoir des listes par mots-clés. Donc par exemple de dire on recherche Rennes et d'avoir tout ce qui est les tweets qui contiennent Rennes dedans. Donc et après l'automation ça va être en fait par exemple if that then that, IFTTT, c'est en fait des choses où tu vas dire sur Twitter je veux que tous les tweets avec le mot temps, enfin le mot Rennes par exemple, soient retweetés par le compte machin. Et en fait automatiquement ça va se faire. Donc bien sûr il faut être très vigilant parce qu'il ne faut pas que ça retweete n'importe quoi, mais du coup ça permet d'avoir quelque chose d'automatique. Donc c'est des outils qui sont très efficaces et qui peuvent être mis en place, mais c'est des outils qui ne sont pas forcément connus et qui sont pourtant vraiment pertinents.
Et est-ce que aussi dans ces ateliers, on parle des aspects négatifs que peuvent avoir les réseaux sociaux, les aspects du coup négatifs et critiquables comme l'utilisation de nos données personnelles revendues à des sociétés à des fins publicitaires, enfin, tout ça, est-ce qu'on en parle aussi dans ces ateliers-là ?
J'avoue que moi j'en parle pas parce que c'est tout bête, mais c'est pas quelque chose qui me vient comme ça à l'esprit. Enfin, je considère que si on est sur Internet, il faut avoir conscience un peu naturellement que bah, si ta publicité elle est ciblée sur un four micro-ondes parce que tu as regardé un four micro-ondes il y a 5 minutes sur Amazon, il faut un peu de bon sens et se dire bon bah oui, c'est normal, enfin, il a fait le lien. Donc je considère pas ça comme étant normal, c'est pas ça là, c'est pas non plus ce que je veux dire, mais c'est quelque chose qui est devenu commun en fait. On s'est habitué en fait à avoir des contenus ciblés, et on va pas se mentir, c'est quand même sympa les contenus ciblés parfois. Moi je préfère avoir du contenu ciblé sur des trucs que je kiffe plutôt que d'avoir des trucs un peu what the fuck ou un peu n'importe quoi. C'est ça, enfin vaut mieux avoir des... Je préfère encore avoir qu'on prenne mes données pour me filer des pubs qui me plaisent ou qui peuvent potentiellement me plaire d'après leurs algorithmes plutôt que me filer un truc de merde. Mais c'est discutable.
L'idée en soi que d'autres gens aient à ce point tes données personnelles, ça te pose pas forcément de problème ?
Ça poserait problème. Je pense qu'ils ont des données qu'on n'imagine pas. Après, c'est sûr que s'ils commencent à... s'ils ont commencé à avoir nos codes de carte bleue, ils les ont déjà. Hein. Ils les ont déjà. De toute façon, à partir du moment où on demande à un site d'enregistrer nos coordonnées bancaires, faut pas être naïf. Ils ont quasiment tout sur nous. Il suffit de taper son nom et son prénom dans Google et on retrouve des trucs. Moi, j'ai un nom prénom qui sont très, très peu communs, ce qui fait qu'il n'y a que moi. Et c'est vrai que quand j'ai déménagé, une semaine plus tard, je retrouve avec ma nouvelle adresse sur Google. Je me suis rendu compte que ma Freebox, en fait, quand j'ai changé d'abonnement Internet, bah, ils m'avaient remis sur Google. Donc, alors que j'étais pas du tout au courant, mais c'est dans les petites lignes. Donc, faut y aller. Faut aller décocher pour dire je veux pas y être. Enfin, je veux pas que mon adresse elle soit publique. Faut quand même avoir conscience. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas faire n'importe quoi, en fait. C'est que... Bah, ça reste des données, ça reste public Internet. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vraiment en avoir conscience.
Je dirais que c'est à chacun d'en faire un peu gaffe à ce qu'il met sur le réseau aussi, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que si on veut mettre un pseudo, on met un pseudo. Si on ne met pas son vrai âge, son vrai genre, enfin voilà, c'est faire un peu gaffe à tout ça. Après, il y a des gens qui sont très ouverts à ça, qui mettent... à disposition, et donc s'ils mettent à disposition, je considère qu'on peut les utiliser. S'ils les mettent pas à disposition, je considère que voilà, on doit faire attention quand même.
C'est pour ça, on revient sur la question de l'irréputation, sur la prévention un petit peu côté négatif, réseaux sociaux, tout ça. Faut être vigilant. Après, c'est compliqué en même temps de se couper tout. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on n'a pas Facebook, bah c'est bizarre. Il a pas Facebook. Donc il y a deux raisons à ça. Enfin, il y a deux raisons qui peuvent t'imaginer. Il a pas Facebook parce qu'il sait pas s'en servir. Dans ce cas-là, c'est un peu un outsider. Ou il veut pas s'en servir, ça reste un outsider. Ou alors il a un Facebook mais on l'a pas trouvé. Dans ce cas-là, il a des choses à cacher. Parce que s'il l'a caché, et qu'il l'a bien caché, c'est pas pour rien. Dans les deux cas, c'est pas bon. Donc vaut mieux avoir un profil un peu vitrine. J'ai des amis, moi, qui ont ça, qui aiment pas Facebook, mais qui ont un profil vitrine. Ouais. Ils ont une photo de profil, ils ont leur nom-prénom, leur vrai nom-prénom, et ils ont les publications sont masquées, voilà, ils ont un profil. Ils existent, ils sont quelque part. Mais c'est tout.
Pour tout savoir sur les prochaines activités d'Air de Com et lire leurs articles sur la com dans les séries, par exemple, ou le nudge, rendez-vous sur le site réseaudecom.wixsite.com/airdecom.